la somme théologique de saint Thomas d'Aquin dans les questions qui traitent de notre Seigneur. Et nous arrivons aux questions qui sont relatives à la Passion. Et ça tombe très bien puisque nous sommes rentrés dans cette période depuis hier. Mais il faut bien faire attention qu'ici, il ne s'agit pas ce soir de faire une méditation directement. Il ne s'agit pas non plus d'un chemin de croix. Il ne s'agit pas non plus de réflexion purement spirituelle que nous pourrions faire. C'est un sujet très intéressant, bien sûr. Mais ce n'est pas l'objet de la conférence de ce soir. L'objet de la conférence de ce soir, c'est une étude théologique, c'est-à-dire une étude discursive qui repose sur les données scripturaires. Et donc, nous cherchons à trouver un petit peu des arguments de convenance pour comprendre un petit peu le plan de Dieu. Bien sûr que nous sommes des hommes, et donc avec une intelligence limitée. Par conséquent, on ne peut pas pénétrer le mystère de Dieu. Malgré tout, nous pouvons l'approcher. Et l'Église, durant les 2000 ans de son existence, a pu puiser dans le trésor de la révélation pour essayer de nous faire mieux comprendre certains mystères, non pas comprendre les mystères, mais expliciter certains mystères, et entre autres, donc, celui de la Passion. Alors, la plupart de l'étude que nous faisons, nous allons essayer au départ de voir toujours les arguments d'autorité, qui sont en général les arguments d'Écriture sainte. Nous ne sommes pas en philosophie, nous sommes en théologie. Et en théologie, l'argument d'Écriture sainte est l'argument le plus fort. L'argument d'Écriture sainte, c'est « Dieu a dit ». Si Dieu a dit, c'est que ça se passe comme ça. Donc, l'argument d'autorité en général est cité brièvement au début, et ensuite, alors, il y a plusieurs arguments de convenance qui sont développés. Donc, les arguments de convenance, c'est l'homme qui fait appel à sa raison et qui, en voyant les différents mystères divins, montre essaie de faire des rapprochements entre ces mystères pour montrer qu'il était raisonnable d'agir ainsi. Donc, c'est un petit peu la façon dont nous procédons donc en théologie. Alors, saint Thomas d'Aquin est toujours très structuré, donc il pose des questions bien précises, et il répond par des arguments qui sont en général assez courts, et donc qui mériteraient ensuite chacun d'entre eux un long développement. Mais donc ici, c'est une vue très synthétique de toutes les questions qui sont relatives donc à la Passion. Et même dans ces questions, vu qu'il traite beaucoup de questions, nous ne pourrons pas les aborder toutes ce soir. Donc peut-être que l'année prochaine, on pourra à nouveau faire la deuxième partie, si nous ne faisons pas tout cette année. J'attendrai encore le temps de la Passion pour le faire, afin de vous aider également dans vos propres méditations. Mais là, cette année, donc, nous étudierons les premières questions relatives à la Passion, c'est-à-dire tout d'abord la Passion considérée en elle-même, ce sera la première question. Ensuite, les causes de la Passion. Et puis ensuite, si nous avons un petit peu de temps, nous commencerons à voir les effets de la Passion. Alors, toute la partie qui traite après de la mort, de la sépulture et la descente aux enfers ne pourra pas être traitée aujourd'hui. Donc, chaque question est subdivisée elle-même en différents articles. Et alors, on commence par la question, qui est la question 46, où il y a 12 articles, donc 12 questions qui sont traitées dans celle-là, sur la Passion considérée en elle-même. Première question que se pose saint Thomas d'Aquin, était-il nécessaire que Jésus-Christ souffrit pour la délivrance du genre humain? Donc la question de la nécessité de la Passion. Est-ce que c'était nécessaire que notre Seigneur endure sa Passion pour sauver le genre humain? L'argument d'autorité, c'est notre Seigneur lui-même qui parle à travers, et c'est rapporté par saint Jean, dans son évangile, au chapitre 3, verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. » Donc ici, notre Seigneur fait appel à un passage de l'Ancien Testament, où, comme ça s'est passé très souvent, les Hébreux, lorsqu'ils avançaient vers la terre promise, ils se rebellaient contre Moïse. Et à un moment donné, Étant donné que ce peuple à la nuque raide, qui réagissait toujours mal face aux épreuves, le bon Dieu lui envoyait une plaie à travers des serpents. Et alors, ces serpents mordaient les Hébreux, et tout ce qui était mordu par le serpent mourait. Alors, en ce moment-là, comme ça se passait à chaque fois, en réalisant leur conduite, et en cherchant surtout la fin du fléau, ils sont partis voir Moïse en lui demandant d'intercéder auprès de Dieu pour que cette épreuve cesse. Et en ce moment-là, le bon Dieu dit à Moïse d'élever un serpent dans le désert, donc, puisque c'était dans le désert qu'il se trouvait, donc d'élever un serpent d'airain qu'il tenait à une perche, et tous ceux qui regardaient ce serpent d'airain lorsqu'ils avaient été mordus par un serpent étaient guéris. Donc Moïse, qui porte en main ce serpent d'airain, était une image de notre Seigneur qui lui-même a été suspendu sur le bois de la croix. Et donc, de la même manière que ce serpent d'airain était élevé, notre Seigneur a voulu être élevé lui aussi entre ciel et terre pour nous racheter. Donc les Hébreux qui étaient guéris en regardant le serpent et l'image de tous les fidèles qui sont guéris en se tournant vers notre Seigneur, qui est le seul sauveur des hommes. Donc voilà pour l'argument d'autorité. Argument maintenant de convenance. Donc ici, on décortique toujours un petit peu plus, comme le fait toujours saint Thomas, pour préciser les choses. Le mot nécessaire a plusieurs acceptions, donc a plusieurs sens. Il signifie d'abord une nécessité absolue, telle de sa nature qu'on ne saurait supposer une chose autrement. Dans ce sens, les souffrances du Christ ne furent nécessaires ni du côté de Dieu, ni du côté de l'homme. Donc une chose qui est nécessaire de sa nature, bien l'homme est intelligent, est un être intelligent, donc si un homme n'a pas d'intelligence, il n'est plus homme. Donc l'intelligence fait partie de la nature de l'homme. Donc en ce moment-là, c'est une nécessité absolue pour l'homme. Mais là, ici, ce n'est pas le cas, c'est ce que nous dit saint Thomas. Le mot nécessaire signifie ensuite la nécessité qui provient d'une cause extérieure. Et là encore, ça va se subdiviser. Nécessité qui se divise en nécessité de contrainte et en nécessité de fin. Alors, il dit ici, la passion du Christ n'a pas été l'objet d'une contrainte, puisque notre Seigneur a souffert volontairement. Donc ce n'est pas de nécessité de contrainte si notre Seigneur a souffert, mais c'est librement et volontairement qu'il a souffert. Il reste donc, dit-il, la nécessité finale d'après laquelle nous disons qu'une chose est nécessaire pour une fin, qui sans elle ne saurait être obtenue en aucune façon ou d'une manière convenable. En l'occurrence, la fin, c'est le salut du genre humain. Le salut du genre humain étant supposé, il était nécessaire pour ce salut que notre Seigneur meure pour nous sur la croix. Donc la nécessité n'est pas une nécessité de nature, mais une nécessité tirée de la fin, à savoir le salut du genre humain. Il a été nécessaire que le Christ souffrit, premièrement pour nous délivrer du péché. Selon cette parole, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. Donc, premier motif, nous délivrer du péché. Deuxième motif, pour mériter lui-même, par les humiliations de sa passion, la gloire de son exaltation. En souffrant, notre Seigneur a mérité la gloire du ciel. Ce que marque cet autre mot, ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entrât ainsi dans sa gloire? Donc notre Seigneur lui-même montre le rapport qu'il y a entre ses souffrances et sa gloire. C'est la parole qu'il adressait aux disciples d'Emmaüs après la résurrection. Et enfin, pour accomplir les décrets de Dieu, consignés dans les Écritures et figurés par l'ancienne loi. Aussi, lisons-nous en saint Luc, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été décrété. » Et encore, « Je vous le disais pendant que j'étais avec vous, tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, devait s'accomplir. Il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscita d'entre les morts. » Donc cette nécessité était liée, bien sûr, au plan de Dieu. Étant donné que le bon Dieu avait décrété que les souffrances de notre Seigneur seraient le meilleur moyen pour sauver l'homme, une fois que ce décret a été établi, eh bien, il y avait une nécessité pour notre Seigneur d'accomplir la volonté de son Père. Ce qui n'empêche pas pour autant la liberté, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est bien librement qu'il a souffert malgré tout. La délivrance du genre humain par la passion du Christ convenait et à la justice et à la miséricorde de Dieu. à la justice à cause de la satisfaction offerte pour le péché, à la miséricorde parce que vu notre impuissance, Dieu a mis son Fils à notre place, ce qui est une miséricorde plus grande que de nous avoir pardonnés sans aucune satisfaction. Donc, étant donné que le péché était une injustice, il fallait réparer cette injustice par un acte d'amour. C'est ce que notre Seigneur a fait en mourant pour nous sur la croix. Et c'est ainsi qu'il a satisfait à la justice de Dieu. Et par là même, il a aussi manifesté sa miséricorde en se penchant sur la misère humaine. Donc, la passion est à la fois un acte qui apaisait la justice de Dieu et qui manifestait la miséricorde divine pour nous. Alors maintenant, étant donné cette nécessité, précisons un petit peu, la passion du Christ était-elle le seul moyen de délivrer l'homme? C'était un moyen nécessaire, mais était-ce le seul moyen? Alors ici, il y a une distinction que fait saint Thomas entre de puissance absolue et de puissance ordonnée. Dieu pouvait, absolument parlant, sauver l'homme par d'autres moyens. Rien ne lui est impossible. Donc de puissance absolue, le bon Dieu peut très bien sauver l'homme, aurait très bien pu sauver l'homme d'une autre manière, de puissance absolue. Mais poser la préscience divine et la préordination de la providence, donc ici c'est le lien qu'il y a entre la puissance de Dieu et les autres attributs divins, entre autres sa sagesse, sa prudence, son amour, sa justice, sa miséricorde, étant donné donc tous les autres attributs divins, et étant donné le plan que le bon Dieu s'est fixé de toute éternité, il n'était plus possible que notre délivrance s'accomplisse d'une autre manière. Et saint Thomas dit ensuite, « Notre Seigneur, pour préciser, parlait dans le sens de la préscience et de la préordination divine quand il disait, « Si ce calice ne peut passer sans que je le boive, à savoir, si vous l'avez ainsi disposé, que votre volonté soit faite. » Donc, quand notre Seigneur faisait cette prière, « Si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté soit faite. » Il se soumettait par là même à ce plan de Dieu. Il indiquait cette nécessité, en quelque sorte, liée au décret divin. Vous comprenez la différence qu'il y a entre la puissance ordonnée, entre puissance absolue et puissance ordonnée? Parce que très souvent, donc, quand on étudie le mystère de Dieu, on fait toujours cette distinction. La puissance absolue, le bon Dieu étant le bon Dieu, ne peut pas faire qu'un rond soit carré, parce que là c'est l'absurde, donc le bon Dieu ne peut pas faire l'absurde. Mais le bon Dieu peut faire, aurait pu faire autre chose que ce qui existe, de puissance absolue. Maintenant, de puissance ordonnée, le bon Dieu a choisi, bien sûr, les meilleurs moyens. Y avait-il un moyen plus convenable de délivrer le genre humain? Alors maintenant, on va montrer justement que c'était le seul moyen, et que justement, si c'était le seul moyen, c'est parce que c'était le moyen le plus convenable. De tous les moyens propres à opérer notre salut et à sauver le genre humain, nul autre ne réunissait autant d'avantages que la passion du Christ. Premièrement, elle nous fait connaître combien Dieu nous aime. Et elle nous excite à l'aimer à notre tour. Dieu, disait saint Paul, a fait éclater son amour envers nous en ce que, dans le temps où nous étions encore ses ennemis, le Christ est mort pour nous. Donc, argument de convenance, bien sûr, cette passion manifeste l'amour de Dieu pour nous. Et c'est intéressant à noter parce que, comme dit ici donc saint Paul, nous étions ennemis de Dieu, puisque nous étions tous sous la coupe du péché, lorsque le bon Dieu nous a rachetés. Par conséquent, s'il nous a aimés quand nous étions ennemis, maintenant que j'espère que nous sommes amis de Dieu en essayant de vivre chrétiennement, le bon Dieu nous aime bien sûr encore plus. Donc on ne doit pas douter de l'amour de Dieu pour nous. Secondement, deuxième argument de convenance, la passion place devant nos yeux l'exemple de l'obéissance, de l'humilité, de la force et de toutes les vertus nécessaires à notre salut. Donc la passion nous apprend à pratiquer toutes les vertus. C'est ce que nous enseigne ce mot du prince des apôtres. Le Christ est mort pour vous, vous laissant son exemple, afin que vous marchiez sur ses traces. Et ça, nous l'avions déjà vu dans la vie publique de notre Seigneur, que si notre Seigneur a voulu mener le genre de vie qu'il a mené, c'est pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer comment nous devons nous conduire pour nous rapprocher de Dieu. Par conséquent, la méditation de la vie de notre Seigneur est sans doute le meilleur moyen pour nous de nous sanctifier. En voyant comment notre Seigneur a vécu, nous comprenons ce que nous devons faire à notre tour pour mériter le ciel. En troisième lieu, la passion nous a mérité la grâce sanctifiante et la gloire éternelle en nous délivrant de nos péchés. Donc là, maintenant, c'est tiré des effets. Parmi les effets de la passion, nous avons pu recevoir cette grâce sanctifiante à notre baptême, et puis nous recevrons la gloire éternelle au ciel si nous sommes fidèles. Quatrièmement, elle nous impose une plus grande obligation d'éviter le péché. Suivant cette parole, vous avez été achetés à un grand prix, glorifiés et portez Dieu dans votre corps. Et certainement que la méditation de la passion, justement, ici, nous aide à être plus fidèles à nos devoirs. Quand on réalise ce que le bon Dieu a fait pour nous, on comprend la nécessité où nous sommes de rester fidèles à notre tour. Enfin, cinquièmement, elle fait ressortir notre dignité. Si l'homme a été vaincu et séduit par le démon, il a également triomphé du démon. S'il a mérité la mort, l'homme Dieu a vaincu la mort en mourant pour nous. Aussi l'apôtre s'écrit-il, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc la dignité de l'homme est tirée du côté de la grandeur de notre Seigneur, qui était vrai Dieu, mais aussi vrai homme, et puis aussi tirée du fait que si notre Seigneur a tant souffert pour nous, c'est que l'homme est quelque chose d'important ou quelqu'un d'important aux yeux de Dieu pour que le bon Dieu ait daigné s'abaisser ainsi jusqu'à nous. Donc ça montre bien sûr la miséricorde de Dieu, mais ça montre aussi que notre âme est très chère aux yeux de Dieu, et donc a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et alors la conclusion qu'il donne, après avoir avancé tous ces arguments, il convenait, on le voit, que nous fussions délivrés par la passion du Christ, plutôt que par la seule volonté de Dieu ou par tout autre moyen. Alors maintenant, après la passion en général, le mode par lequel notre Seigneur a souffert sa passion, à savoir le supplice de la croix. Le Christ devait-il subir le supplice de la croix? On est d'accord qu'il devait subir sa passion. Maintenant, voyons de quelle manière il l'a subi et si ce moyen était le plus convenable. L'argument d'autorité tiré de la Sainte Écriture, Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 8, « Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. » Alors maintenant, arguments de convenance qui sont très intéressants les uns et les autres. Premier argument de convenance, notre Seigneur a voulu subir donc ce supplice et il convenait qu'il souffrit ce supplice parce que c'était l'un des supplices les plus douloureux. La sagesse de Dieu a revêtu notre humanité afin de nous donner l'exemple de la vertu et de nous apprendre qu'aucun genre de mort n'est à craindre pour l'homme vertueux. Pour cela même, le Christ est mort sur la croix, supplice le plus redouté parmi tous les genres de mort. À la fois le plus douloureux et le plus infâme, puisqu'il y avait une parole de l'Ancien Testament qui disait « Maudit soit celui qui sera pendu au bois ». Et donc, c'était le supplice qui était, bien sûr, le plus redouté pour cette raison. Et c'est pourquoi notre Seigneur a voulu, lui qui s'est fait péché pour nous, comme dit saint Paul, ce n'est pas pécheur, mais péché, a voulu endurer ce supplice en signe d'humiliation. En second lieu, quelle autre mort convenait mieux à l'expiation du péché, qui avait consisté à manger du fruit de l'arbre défendu? Donc ici, l'argument est tiré du fait que le bon Dieu agit toujours par réplique. C'est par un arbre que le péché est entré dans le monde. Il convenait que ce fût un arbre, l'arbre de la croix, qui racheta ce péché de nos premiers parents. Donc l'arbre de la science du bien et du mal est ici compensé, réparer en quelque sorte le mal qui a été produit par cet arbre, par l'arbre de la croix. Ne dirait-on pas que le Christ, en se laissant attacher à la croix, restitue ce qu'Adam avait enlevé, pour réaliser cette parole du prophète, « Je restituai ce que je n'avais point dérobé ». Troisième argument, qui est maintenant tiré de la position de la croix, par le fait que notre Seigneur a souffert entre ciel et terre, eh bien, il a manifesté par là qu'il venait de nouveau réconcilier le ciel et la terre. Sa mort entre le ciel et la terre purifie l'air, arrose de son sang la terre, déjà sanctifiée par ses pas, et nous ouvre l'accès au ciel, selon cette parole, « Quand je serai élevé de terre, j'entraînerai tout à moi. » Saint Jean, chapitre 12, verset 32. Ensuite, la forme de la croix. Eh bien, la forme de la croix désigne le fait que notre Seigneur a voulu exercer la rédemption sur le monde entier, manifestée par les quatre points cardinaux que l'on trouve sur une croix. La forme de la croix, qui se dirige du centre vers quatre parties opposées, convenait à la rédemption du genre humain. Elle nous représente la diffusion de la puissance et de la bonté infinie. Le Christ meurt en étendant les mains pour attirer par l'une l'ancien peuple, donc l'Ancien Testament, donc les Juifs, par l'autre les enfants de la gentilité, donc nous-mêmes qui sommes convertis de la gentilité. Ajoutons avec saint Augustin que la croix, véritable chair d'où le divin maître instruit l'univers, nous enseigne cette science dont l'apôtre admirait la largeur, la hauteur et la profondeur. Et enfin, dernier argument de convenance, eh bien, c'est la réalisation de toutes les figures de l'Ancien Testament qui désignaient déjà cette croix. La mort du Christ sur la croix répond à une foule de figures. Au déluge, continue saint Augustin, une arche de bois sauve le genre humain. Donc l'arche était en bois et annonçait déjà le bois de la croix. À la sortie d'Égypte, Moïse, avec une verge de bois, divise la mer, renverse le pharaon et délivre les Israélites. Au désert, il jette du bois dans l'eau et en transforme l'amertume en douceur. Il frappe avec une verge de bois le rocher, d'où il fait jaillir une source abondante. La loi de Dieu fut renfermée dans une arche de bois. L'autel des holocaustes était en bois, autant de degrés qui conduisent les hommes au bois de la croix. Donc, déjà, donc dans l'Ancien Testament, tout ce qui s'était fait dans le domaine cultuel n'était pas fait par hasard, mais était fait en tant que figure, en tant qu'annonce, eh bien, des moyens que notre Seigneur allait utiliser lui-même pour sauver le genre humain. Ces analogies, unies aux autres raisons, montrent suffisamment qu'il convenait que le Christ mourût sur la croix. Alors maintenant, après avoir vu donc de quelle manière il a souffert, de quel supplice il a souffert, ce supplice de la croix, nouvelle question, le Christ a-t-il enduré toutes les souffrances? Alors ici, il y a une distinction que fait saint Thomas entre les espèces de souffrances et les genres de souffrances. Les souffrances humaines peuvent être envisagées quant à l'espèce et quant au genre. Nous ne dirons pas que le Christ a souffert toutes les espèces de douleurs. Plusieurs sont opposées l'une à l'autre. On ne saurait, par exemple, périr simultanément par l'eau et par le feu. Il ne convenait pas, d'un autre côté, qu'il fût en proie aux maladies du corps, puisqu'il avait un corps parfait, comme nous l'avions vu déjà auparavant. Mais nous dirons qu'il a enduré tous les genres de souffrances humaines. Donc il n'a pas enduré toutes les espèces de souffrances, mais tous les genres de souffrances. Alors tout d'abord, il a souffert de la part de tous. Il a souffert de la part de toutes sortes de personnes, des juifs, des gentils, des hommes, des femmes, des princes, des serviteurs, de ses compatriotes, de ses disciples, de ses amis. Donc du côté des hommes, il a souffert de la part de tous les genres de personnes. Ensuite, il a souffert encore dans tous ses biens. Il a souffert dans toutes les choses où un homme peut être éprouvé. Ses amis l'ont abandonné. Sa réputation a été flétrie, son honneur et sa gloire ont été en butte à la dérision et aux outrages, on lui a enlevé les seuls biens qu'il possédait, ses vêtements, son âme a été livrée à la tristesse, à l'ennui et à la crainte, son corps a été meurtri de coups. Donc là, ce sont toutes les souffrances que l'on médite justement quand on fait le chemin de la croix. Ensuite, il a souffert encore dans tous ses membres, donc dans, sur tout son corps, on peut dire. Il a souffert dans tous ses membres, à la tête, la couronne d'épines, aux mains et aux pieds, les clous, au visage, les soufflets et les crachats, sur tout son corps, la flagellation. Et on le voit très bien sur le linceul de Turin, toutes ces souffrances que notre Seigneur a pu endurer. Et puis enfin, il a souffert à travers tous ses sens. Donc les cinq sens ont eu également leur souffrance. Pas un seul de ses sens qui n'ait eu aussi son supplice propre. Le tact a eu à supporter les clous et les fouets, le goût, le fiel et le vinaigre, l'odorat, les exhalaisons infectes des débris de cadavres humains qui gisaient sur le lieu de l'exécution, appelé pour cela le calvaire, l'ouïe par les blasphèmes et les moqueries, la vue par les larmes de sa mère et celles du disciple qu'il chérissait. Donc c'est vrai que, bon là on passe très vite, hein, juste en 5-10 minutes, mais c'est vrai que je pense que là il y a matière à méditation pour minutes, mais c'est vrai que pour notre raison, pour réaliser l'étendue des souffrances de notre Seigneur. Alors après avoir vu justement toutes ces souffrances, nouvelle question que se pose saint Thomas, est-ce que la passion du Christ a été la plus grande de toutes les douleurs ? Parmi ce que les hommes ont pu souffrir, donc ici-bas. L'argument d'autorité, qui est tiré des Lamentations de Jérémie dans l'Ancien Testament, chapitre 1, verset 12, « Regardez et voyez s'il est une douleur semblable à ma douleur. » Donc, notre Seigneur a souffert plus que tout autre homme. Alors, explication. Les souffrances du Christ sous le rapport de son âme et de son corps furent supérieures à toutes celles de la vie présente. On peut juger de celles de son corps tant par l'étendue de sa passion décrite dans l'article précédent que par le supplice même de la croix, le plus terrible de tous, où la victime transperçait aux pieds et aux mains, partie du corps que la sensibilité nerveuse affecte plus vivement, sent son mal s'aggraver continuellement par le poids de son corps et par la lenteur du trépas. Et c'est vrai que les progrès en chirurgie ont montré que ce que disait saint Thomas est tout à fait exact, en particulier les clous que notre Seigneur a eus dans les poignets, eh bien, sectionnaient en partie le nerf médian et donc entraînaient une souffrance vraiment atroce. Quant à la douleur de son âme, il faut considérer qu'elle avait pour cause tous les péchés du genre humain, à l'égard desquels il satisfait en se les attribuant. En particulier le crime des Juifs, l'infidélité de ses disciples, les erreurs de tous ceux pour qui sa mort fut un scandale, et enfin la perte de la vie corporelle dont la pensée attriste toujours la nature humaine. Donc on a vu déjà donc les souffrances dans son corps, dans son âme, et puis alors ensuite donc saint Thomas voit maintenant l'union des deux, de la souffrance et de l'âme. Sous le rapport de son âme et de son corps réunis, ses souffrances furent en proportion non seulement la sensibilité de son corps, qui formé par l'Esprit Saint était d'une complexion merveilleusement délicate, notre Seigneur étant pleinement homme, avait une sensibilité qui était tout à fait exquise, mais de la perfection également de son âme, dont les facultés saisissaient avec une grande perspicacité tout ce qui fait naître la tristesse. Elles furent d'autant plus grandes que, au lieu de les alléger comme les autres hommes par l'exercice de sa raison et par l'action des forces supérieures sur les forces inférieures, il laissait à chacune de ses puissances son impression et son action propre, afin que son supplice, accepté volontairement pour l'expiation des péchés du genre humain, fût en rapport avec le résultat qu'il se proposait. Donc ici, saint Thomas veut dire que notre Seigneur aurait très bien pu soulager en quelque sorte compenser ses souffrances en pensant peut-être davantage à son père, ou en pensant également bien au fait qu'il était innocent. D'une certaine manière, l'innocence peut aggraver la souffrance, d'une certaine manière, elle peut aussi la soulager. Mais il ne l'a pas voulu parce qu'il voulait justement satisfaire pleinement pour tous nos péchés. Donc chaque sens a eu sa souffrance propre et elle n'était pas allégée par l'intervention de la partie supérieure de notre être. Et donc la conclusion qu'il donne, il est évident par l'ensemble de ces causes que la passion du Christ a été la plus grande de toutes les douleurs. Alors il reste malgré tout quelques objections qui me semblent intéressantes et que je vais relever. Donc les objections consisteraient à dire qu'il y a des hommes qui ont souffert plus que notre Seigneur. Première objection. La douleur augmente en effet avec la violence et la durée de la souffrance. Or, certains martyrs ont enduré des supplices plus longs et plus terribles que le Christ. Par exemple, Saint Laurent qui a été rôti sur un grill, ou Saint Vincent dont les chairs ont été déchirées par des griffes de fer. La douleur du Christ ne paraît donc pas avoir été la plus intense. À ceci, il répond. Cette objection est fondée sur une seule des causes de souffrance que l'on a énumérées, la lésion corporelle, d'où dérive la douleur sensible. Mais la douleur du Christ augmente en intensité, surtout pour les autres raisons indiquées dans l'article. Donc l'article a montré que notre Seigneur a souffert non seulement dans ses sens, mais dans toutes ses facultés, et par conséquent, l'union des souffrances physiques avec toutes les autres souffrances morales et presque et spirituelles que notre Seigneur a endurées, eh bien, toutes ces souffrances n'ont jamais été endurées donc, par d'autres hommes, même si d'autres hommes ont souffert davantage, peut-être, dans la partie sensible de leur être. Alors, autre objection, plus le patient est sensible, plus est grande la douleur qu'il ressent de la souffrance. Or, l'âme est plus sensible que le corps, puisque le corps ne sent que par l'âme. Par suite, la douleur de l'âme de celui qui souffre dans le purgatoire ou dans l'enfer surpasse la douleur de la passion du Christ. Donc l'objection consiste à dire qu'on souffre davantage encore dans son âme que dans son corps. Donc les âmes séparées, eh bien, celles qui sont au purgatoire ou en enfer, étant donné qu'elles n'ont plus le corps, elles souffrent davantage. Et la réponse que donne saint Thomas donne bien à réfléchir pour nous-mêmes. La douleur de l'âme séparée appartient à l'état de damnation, damnation qui dépasse tous les maux de cette vie, comme la gloire des saints en dépasse tous les biens. Lors donc que nous disons que la douleur du Christ était la plus grande, nous ne voulons pas la comparer à celle de l'âme séparée. Donc saint Thomas dit, s'il est vrai que notre Seigneur a souffert plus que tout homme ici-bas, malgré tout, ses souffrances sont inférieures à celles que peuvent endurer les damnés en enfer. Et même pour le purgatoire, donc il le pose dans l'objection, il ne donne pas dans la réponse, donc on ne le sait pas. Mais ça donne à réfléchir donc sur l'intensité des souffrances dans l'au-delà. Mais pour ceux qui sont au purgatoire, si les souffrances sont plus élevées que les souffrances terrestres, ils ont aussi des consolations qui sont aussi sans commune mesure avec ce que nous pouvons éprouver ici-bas. C'est pour ça que c'est très difficile de décrire et de connaître l'état exact des âmes séparées. Ceci étant, mieux vaut éviter le purgatoire, c'est sûr. Et enfin, dernière objection. De plus, l'innocence de celui qui souffre diminue la douleur de sa souffrance. Or, le Christ a souffert dans l'innocence. « Je suis comme un doux agneau que l'on mène à la boucherie », écrit de lui Jérémie. L'innocence diminue le nombre des souffrances, car si le coupable souffre non seulement de la peine, mais encore de la faute, l'innocent n'endure que la douleur de la peine. Toutefois, cette douleur croît en lui en raison de son innocence, pour autant qu'il saisit que la peine qui la provoque est plus imméritée. Aussi, ne pas compatir à la peine d'un innocent est plus répréhensible selon le mot d'Isaïe, « Le juste disparaît et personne n'y pense dans son cœur ». Donc l'innocence diminue le nombre des souffrances, parce qu'on ne souffre pas du péché si on n'est pas coupable, mais d'un certain côté l'innocence aggrave la souffrance, parce qu'on subit une injustice, et cette injustice qu'on subit cause une douleur, qui est plus grande bien sûr que le coupable. Le coupable il se dit, moi je ne fais que payer ma dette. Hein. C'était d'ailleurs l'argument du bon larron, qui disait, nous, c'est de notre faute si nous souffrons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Il y avait une autre objection là, que j'allais sauter, que je vous cite. Plus le bien que l'on perd est grand, plus est vive la douleur que l'on ressent de sa perte. Or, l'homme perd en péchant un bien plus grand que le Christ en souffrant. La vie de la grâce est en effet supérieure à la vie naturelle. Et même le Christ qui a perdu la vie, mais pour ressusciter 3 jours après, a moins perdu que ceux qui laissent la vie, mais pour demeurer dans la mort. La douleur du Christ ne semble donc pas avoir été la plus grande des douleurs. Donc, le Christ n'a perdu que la vie corporelle, donc il a moins perdu que ceux qui perdent aussi la vie surnaturelle. C'est la première partie de l'objection. Réponse que donne saint Thomas. Le Christ est affligé non seulement de la perte de sa propre vie corporelle, mais aussi des péchés de tous les autres hommes. Sous ce dernier aspect, la douleur du Christ a dépassé celle que pouvait provoquer la contrition dans n'importe quel homme. Elle avait en effet sa source dans une sagesse et une charité plus grande et augmentée en proportion. Donc si le Christ a tant souffert, c'était parce qu'il ne souffrait pas uniquement de sa propre vie, mais il souffrait bien sûr des péchés de tous les hommes. D'autre part, le Christ souffrait pour tous les péchés à la fois, suivant la prédiction d'Isaïe. Il a vraiment porté sur lui toutes nos douleurs. La deuxième partie de l'objection donc, consistait à dire « Le Christ n'est mort que 3 jours, il a donc moins souffert que ceux qui meurent et qui ne ressuscitent pas. » Quant à la vie corporelle, elle était dans le Christ d'une dignité telle, surtout par la divinité qui se l'était unie, qu'il souffrit plus de sa perte, même momentanée, qu'un homme ne peut souffrir en en étant privé pendant un grand laps de temps. Aussi, comme le remarque le philosophe, le vertueux aime-t-il d'autant plus sa vie qu'il la sait meilleure, mais il l'expose cependant à cause du bien de la vertu. De même, le Christ a offert pour le bien de la charité sa vie qu'il aimait au plus haut point, ainsi que l'avait dit Jérémie. « J'ai remis mon âme, objet de mon amour, aux mains de mes ennemis. » Donc, vu la perfection de la nature humaine de notre Seigneur, eh bien, il y avait un attachement plus grand, en quelque sorte, de son âme et de son corps, et donc la souffrance occasionnée par cette séparation était plus violente que celle que peut éprouver n'importe quel mortel lorsqu'il passe par... lorsqu'il rend son âme à Dieu. Ensuite, le Christ a-t-il souffert dans toute son âme? Entendez-vous le mot « toute » de l'essence même de l'âme, ou l'entendez-vous de ses puissances? Si vous parlez de l'essence de l'âme, donc de la nature de l'âme, de l'âme elle-même, le Christ a souffert dans toute son âme. L'âme humaine unie au corps par son essence est tout entière dans tout le corps et dans chacune partie du corps. Le corps tout entier du Christ étant en souffrance, comme il a été dit, son âme souffrait aussi tout entière. Donc du côté de la nature de l'âme, donc toute l'âme en quelque sorte, éprouvait la douleur. Maintenant, rapportez-vous le mot « toute » aux puissances, le Christ a souffert dans toutes ses facultés inférieures, qui avaient leur douleur particulière, comme nous l'avons expliqué en son lieu. Mais sa raison supérieure, cependant, n'avait rien à souffrir du côté de son objet propre, c'est-à-dire de la divinité, qui était bien plutôt pour elle une cause de délectation et de joie. Donc notre Seigneur a souffert dans toute la partie inférieure de son être, dans son corps, dans ses passions, mais ensuite la partie supérieure de son être, donc le sommet de sa raison, comme il savait bien, bien sûr, qu'il n'était pas coupable, et qu'il voyait Dieu dans cette partie supérieure, donc en ce moment-là, il ne souffrait pas dans cette partie supérieure. Puisque même tout au long de sa passion, eh bien, notre Seigneur continuait à voir son Père dans la partie supérieure de son âme. Alors, ça reste un mystère, cette vision béatifique que notre Seigneur a conservée, même au moment le plus fort de ses épreuves. Et c'est justement la question suivante. L'âme entière du Christ jouissait-elle de la béatitude pendant la passion? Qui dit l'âme entière désigne son essence même ou toutes ses puissances. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si l'on parle de l'essence, l'âme entière du Christ possédait la joie béatifique comme étant le sujet de la raison supérieure, dont le propre est de jouir de la divinité. Donc là encore, donc, la partie supérieure de l'âme, Seigneur, jouissait de cette divinité. Dans le second sens qui envisage l'âme dans l'ensemble de ses puissances, il en était autrement. Une telle jouissance n'appartient point en propre à chaque faculté de notre âme, et la partie supérieure de celle du Christ ne faisait point rejaillir sur la partie inférieure la gloire et la joie qu'elle possédait. Donc notre Seigneur n'éprouvait cette joie que dans la partie supérieure de son âme. Alors bien sûr, ça semble difficile à comprendre comment on peut éprouver à la fois une grande douleur et une grande joie, parce qu'il n'y a pas de joie plus grande que celle de contempler Dieu. Mais pourtant, quand on est sur la terre, ça peut arriver qu'on... qu'une même personne éprouve à la fois la douleur et la joie. Je pense qu'une mère de famille, lorsqu'elle marie son dernier des enfants, si c'est un beau mariage, eh bien, elle est heureuse de marier son dernier enfant, mais en même temps, elle est dans la tristesse. Donc, elle a à la fois la tristesse et la douleur dans son âme. Bon, c'est un exemple que je prends, mais on peut multiplier les exemples pour montrer qu'ici-bas, on peut à la fois, sous des rapports différents, éprouver à la fois une joie et une souffrance. Tous les martyrs, qui sont morts martyrs, éprouvent une grande douleur, bien sûr, dans tous les supplices qu'ils endurent, mais en même temps une joie de donner leur vie pour Dieu. Donc on peut à la fois, sous des rapports différents, éprouver ces deux sentiments qui paraissent contradictoires. C'est la première objection qui était posée, d'ailleurs. N'est-il pas en effet impossible de souffrir et de jouir simultanément, la douleur et la joie étant opposées l'une à l'autre ? Or, pendant la Passion, toute l'âme du Christ a enduré la souffrance. Elle ne pouvait donc jouir tout entière. Et la réponse que fait saint Thomas, la joie de la vision n'est pas directement contraire à la douleur de la Passion, car l'une et l'autre n'ont pas le même objet. Rien n'empêche en effet que des contraires existent dans un même être quand ils ne portent pas sur un même objet. Ainsi, la joie de la vision peut appartenir à la partie supérieure de la raison par son acte propre, et la douleur de la passion par le sujet qui la supporte. Nous continuons alors, nous sommes toujours dans la première question, je vous signale. Hein. 9e article, pour ceux qui sont encore éveillés. Le Christ a-t-il souffert dans le temps convenable ? Donc maintenant, on va voir les circonstances de temps et de lieu. Argument d'autorité. Saint Jean dit, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père. Chapitre 13, verset 1. Le Sauveur lui-même avait dit antérieurement, « Mon heure n'est pas encore venue. » Donc, quand notre Seigneur dit que son heure est venue, c'est que c'était le moment, bien sûr, le plus propice, le plus convenable. Preuve. La passion du Christ était sous la dépendance de sa volonté, toujours dirigée par la sagesse divine, qui dispose tout avec convenance et douceur. Elle a donc eu lieu dans le temps convenable. Dans la mesure où notre Seigneur accomplissait toujours la volonté de son Père, eh bien, dans la mesure où il accomplissait ici la volonté de son Père, le temps était bien sûr le meilleur, le plus convenable, puisque c'est tout ce que le bon Dieu fait, il le fait avec ordre et sagesse. Elle a donc eu lieu dans le temps convenable. Toutes les œuvres du Sauveur, dit saint Augustin, se sont accomplies comme il le fallait pour le temps et pour le lieu. Malgré tout, une objection. Objection tirée de l'agneau pascal. Comment le croire ? La passion du Christ n'avait-elle pas été figurée par l'immolation de l'agneau pascal ? Saint Paul l'écrit aux Corinthiens, « Le Christ, notre Pâque, a été immolé. » Or, l'agneau pascal était immolé le 14e jour au soir, comme le prescrit l'Exode. Il semble donc que le Christ aurait dû souffrir à ce même moment, ce qui est faux, car c'est alors qu'il célébra la Pâque avec ses disciples, comme on le dit dans saint Marc. Ils immolèrent la Pâque le premier jour des azimes. Le Christ n'a souffert que le lendemain. Donc, d'après ce qu'il dit ici, comme la réalité doit correspondre à la figure, puisque la figure était immolée le jeudi saint, le Christ aurait dû mourir le jeudi saint. Bon, la réponse qu'il donne, c'est de dire que consiste à dire que dès le jeudi saint au soir, il a été livré eh bien, à ses bourreaux, donc la passion a déjà commencé pour lui dès le jeudi soir. Le Christ et les Juifs ont célébré le même jour l'ancienne Pâque. D'après saint Bède, bien que le Christ, qui est notre Pâque, ait été crucifié le jour suivant, à savoir le 15e du mois, ce fut toutefois dans la nuit où on immolait l'agneau qu'il livra son corps et son sang à ses disciples pour la célébration des saints mystères, et que pris et ligoté par les Juifs, il consacra le début de son immolation, c'est-à-dire de sa passion. Alors il reste encore une autre question, quand on lit un petit peu l'Évangile, qui consiste à essayer d'unir les apôtres, parce que saint Marc et saint Jean, apparemment, ne sont pas d'accord. L'un dit qu'il a été crucifié à 9h du matin, donc à la 3e heure du jour, et l'autre à la 6e heure du jour. Alors, voilà comment saint Thomas concilie les deux évangélistes. Quant à l'heure du crucifiement, il est aisé de concilier saint Marc qui le place à la troisième heure du jour et saint Jean qui lui assigne la sixième heure. Saint Marc parle du moment où les Juifs commencèrent les préparatifs du crucifiement, saint Jean de l'instant même où notre Seigneur fut suspendu à la croix et où les ténèbres se répandirent, ce qui eut lieu à midi. Et puis enfin, donc, concernant encore le temps convenable de sa passion, donc là maintenant qui concerne l'âge de notre Seigneur, le Christ a voulu souffrir dans la jeunesse pour mieux nous témoigner son amour en nous sacrifiant sa vie quand elle était dans son état le plus parfait. Donc là encore, vous voyez, donc tout, jusque dans les moindres détails, a sa signification. Après la question de temps, la question de lieu, c'est la dixième question de cet article. Le Christ a-t-il souffert dans un lieu convenable ? Alors ici, il va développer en parlant du lieu. Le lieu, c'est tout d'abord Jérusalem. Ensuite, le lieu, c'est hors des portes de la ville. Et enfin, le lieu, c'est sur le calvaire. Donc là, il va donner encore de nouveau des arguments de convenance concernant ces trois lieux. Tous les lieux, comme tous les temps, sont soumis à sa puissance. Il en faut inférer que le lieu de sa passion ne fut pas moins convenablement choisi. Il était à propos que notre Seigneur souffrit à Jérusalem, hors des portes de la ville et sur le calvaire. Donc, argument de convenance. Tout d'abord, à Jérusalem. Dieu avait choisi cette ville pour l'offrande des sacrifices figurait le Christ. Et dans la mesure où elle le figurait, eh bien, il convenait que notre Seigneur fût immolé au même lieu. Par ailleurs, dit saint Thomas, Jérusalem était alors le centre du monde habité. Le Sauveur voulut y mourir pour que son sang se répandît de là sur le monde entier. En outre, ayant choisi le genre de mort le plus ignominieux, il voulait en subir la confusion dans un lieu très renommé. Et dans la ville même où résidaient les princes du peuple juif, ses plus mortels ennemis. Donc, notre Seigneur a voulu naître dans une pauvre crèche retirée par humilité, et au contraire, quand il s'agissait pour lui de souffrir, il a voulu souffrir dans un endroit le plus public possible, afin de s'humilier davantage et de souffrir davantage pour nous. Ensuite, hors des portes de la ville. Le sacrifice le plus solennel, qui avait pour but la sanctification du peuple, celui du veau et du bouc, s'offrait hors du camp. Donc, là encore, donc, il y avait une analogie entre ce sacrifice qui avait lieu dans l'Ancien Testament et celui de notre Seigneur. Dans la mesure où ce sacrifice avait lieu hors du camp, il convenait que notre Seigneur souffrit hors des portes de la ville. Et enfin, sur le calvaire. Ce mot désigne un lieu où sont tranchées les têtes des criminels. Notre divin Rédempteur a voulu y être crucifié pour montrer que sa croix devait effacer non seulement le péché originel, mais tous les péchés actuels. Donc, en souffrant à un endroit où on faisait mettre à mort les criminels, il voulait montrer qu'il était venu racheter tous les hommes. Alors maintenant, concernant toujours la crucifixion, il reste encore deux questions. Convenait-il que le Christ fût crucifié avec des voleurs ? Donc c'est la présence des deux larrons, de part et d'autre, de la croix de notre Seigneur. Argument d'autorité. Isaïe avait prédit qu'il serait mis au nombre des scélérats. Prophétie d'Isaïe, c'est le chapitre 53, verset 12. Alors, comme le dit saint Thomas, son crucifiement entre deux voleurs avait un motif dans la pensée des Juifs et un autre dans la pensée de Dieu. Dans la pensée des Juifs, le Christ devait passer pour coupable, comme les deux larrons. C'est la raison pour laquelle les Juifs l'ont crucifié entre deux larrons. Mais il en a été tout autrement, à la mesure où notre Seigneur n'était pas coupable. Et par contre, dans les desseins de Dieu, et là encore, ça montre l'harmonie du plan divin, c'est très beau à considérer, il convenait que le Christ fût ainsi crucifié. La croix, dit saint Augustin, est un tribunal dont le juge occupe le centre. Notre Seigneur est au centre. Un malfaiteur croit, il est sauvé, c'est celui qui est à droite. Un autre blasphème, il est réprouvé, c'est celui qui est à gauche. Image de ce qui aura lieu au dernier jour à l'égard des vivants et des morts. Jésus placera les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Donc le bon larron représentait tous ceux qui, à la fin du monde, seront à la droite de notre Seigneur, et le mauvais larron représentait ceux qui seront à sa gauche. Le bon larron nous a été donné eh bien, pour que nous ayons suffisamment de confiance en Dieu, et le mauvais larron pour que nous évitions le piège de la présomption. En pensant que, puisque notre Seigneur est mort pour nous, on ira nécessairement au ciel. Ce qui n'est pas le cas. Et par contre, c'est un larron qui a eu le droit au ciel, s'il avait été injuste. Et à ce moment-là, tous les pécheurs repentants auraient pu eh bien, désespérer leur salut éternel. Mais cette présence du bon larron manifeste la confiance que nous devons avoir en la divine providence, quels que soient les péchés dans lesquels nous aurions pu tomber dans le passé. La passion, dernière question dans cette dernier article dans cette question, la passion du Christ doit-elle être attribuée à sa divinité? Il est clair que la divinité étant impassible, la divinité ne peut pas souffrir, le Christ a souffert à raison de sa nature humaine et non de sa nature divine. Saint Cyril disait, si quelqu'un ne confesse pas que le Verbe de Dieu a souffert dans sa chair et a été crucifié dans sa chair, qu'il soit anathème. Ainsi, quoique la passion du Christ doive être attribuée à sa personne divine, suppos unique de ses deux natures, parce qu'il y a une personne et deux natures, elle appartient exclusivement à la nature humaine, seule capable de souffrir. Donc Dieu, quand on dit Dieu a souffert pour nous, c'est une image que l'on prend parce que tous les actes posés par notre Seigneur peuvent être attribués à la personne de notre Seigneur, qui est une personne divine. Mais dans la nature divine, bien sûr, notre Seigneur n'a pas pu souffrir. C'est dans sa nature humaine. Comme tous ces actes humains étaient subjectés dans une personne qui est divine, on peut attribuer ces actes humains à Dieu lui-même. Et c'est dans ce sens qu'on dit « Dieu a souffert ». Et c'est pourquoi ensuite, dans il précise donc dans les réponses aux objections, on lit dans un sermon prononcé au Concile d'Éphèse, les Juifs n'en commirent pas moins un déicide. Ce n'est pas parce que notre Seigneur n'a souffert que dans sa nature humaine que les Juifs n'ont pas commis pour autant de déicide. Ils ne crucifièrent pas un pur homme, ils portèrent leur attentat jusqu'à Dieu. Alors ici, il prend une comparaison pour essayer de faire comprendre. Supposez qu'un prince parle et que sa parole rendue visible par des caractères soit adressée dans une lettre à ses sujets. Un prince parle, écrit à ses sujets, donc, leur adresse une lettre. Celui qui se révoltant déchirera cette lettre sera condamné comme ayant déchiré non la lettre, mais les instructions du souverain. Donc, en s'attaquant à l'homme, il s'attaquait également à la nature divine de notre Seigneur. Donc, il s'attaquait à la personne, donc à Dieu lui-même. Eh bien, on essaie de voir quelques questions, on arrête là. Ça va? On peut continuer encore un petit peu? Un petit quart d'heure? Bon, ben les autres, on vous réveillera, rassurez-vous. Hein. Donc ça, c'est terminé pour la première question. C'est quand même bien, on a quand même pu faire une question. La seconde, que nous allons donc décrire un peu plus rapidement, c'est la première qui était très importante. La seconde aussi était importante, parce que tout est important chez saint Thomas. Non, plus facile à suivre, j'espère, pour vous. Donc, concerne maintenant la cause efficiente de la passion du Christ. La cause efficiente, donc, c'est celui qui a mis la qui a mis notre Seigneur à mort. Donc là, il va y avoir de quelle manière notre Seigneur est mort, en quelque sorte. Mais de quelle manière, ça concerne donc l'origine. Donc là, il se pose 6 questions. Première question, le Christ a-t-il été mis à mort ou s'est-il donné la mort? Donc il répond, le Christ a été mis à mort par ses persécuteurs. Il l'avait lui-même annoncé par ses paroles. Après qu'ils l'auront flagellé, ils le mettront à mort. S'il est écrit qu'il a quitté la vie de lui-même, qu'il a été la cause de sa passion ou qu'il est mort volontairement, c'est que pouvant empêcher sa mort, soit en privant ses ennemis du pouvoir de lui nuire, ce qu'il avait fait plusieurs fois lorsque son heure n'était pas encore venue, en ce moment-là il se dérobait à leurs yeux, soit en leur dérobant son corps, il a voulu que sa nature corporelle, donc, alors qu'il aurait pu donc agir autrement, il a voulu que sa nature corporelle succomba sous leurs coups. Donc le Christ a vraiment été mort par ses persécuteurs. Mais ce qui est mystérieux, bien sûr, c'est que bien qu'étant mort par ses persécuteurs, il a voulu conserver sa force corporelle, en quelque sorte, sa vigueur corporelle, jusqu'au bout. Ce qui explique le grand cri qu'il a poussé et qui a été à l'origine, d'ailleurs, de la conversion du soldat Longin. Parce qu'en général, eh bien, le mort mourant par asphyxie, il n'a plus de force et donc il ne peut plus, pour ainsi dire, parler et il ne pourrait surtout pas lancer un grand cri. Donc dans la mesure où notre Seigneur a lancé un grand cri avant de mourir, c'était le signe qu'il avait pleine encore possession, en quelque sorte, au moins de sa force. Et donc, c'est ce que dit saint Thomas, et donc qu'il était Dieu. Et c'est ce que dit ici, dit saint Thomas, ce qui montrerait que notre Seigneur, comme il a dit lui-même, « Nul ne prend ma vie, mais c'est moi qui la donne. » D'un certain côté, il a donné sa vie, en acceptant bien sûr d'être mis à mort par ses persécuteurs, mais c'est lui qui a donné sa vie malgré tout, au moment où il l'a voulu. « Afin de montrer que tous les supplices de la passion ne pouvaient rien par eux-mêmes, il conserva jusqu'à la fin sa nature corporelle dans toute sa force. » Puis, quand il le voulut, elle succomba tout à coup. De là le grand cri qu'il jeta avant d'expirer, comme pour attester qu'il mourait volontairement, et dont le centurion fut si frappé qu'il dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Saint Marc, chapitre 15, verset 30. Alors, ensuite, est-il mort par obéissance? Alors là, l'argument d'autorité. Donc ça c'est assez facile. Saint Paul écrivait, il s'est fait obéissant à son Père jusqu'à la mort. Philippiens, chapitre 2, verset 8. Il convenait beaucoup que le Christ souffrit par obéissance. D'abord du côté de notre justification, afin que pécheurs par la désobéissance d'un seul homme, nous fussions justifiés par l'obéissance d'un seul. C'est ce que dit Saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 19. Donc Dieu agit toujours par réplique. Dans la mesure où le péché est arrivé par la désobéissance de nos premiers parents, il convenait que notre Seigneur racheta ce péché par l'obéissance. Et alors ensuite, dans les réponses aux objections, il précise en disant « Jésus ne s'est pas contenté d'être obéissant à la loi, dont il a observé tous les préceptes moraux, judiciaires et cérémoniels. Il a été obéissant aux ordres particuliers de son Père, comme on le voit par ses paroles. « Mon Dieu, j'ai voulu faire votre volonté. » Et par ces autres, « Mon Père, si ce calice ne peut s'éloigner sans que je le boive, que votre volonté soit faite. » Et donc, par là, notre Seigneur nous apprend à obéir non seulement à la loi de Dieu d'une façon générale, mais également à suivre les inspirations du Saint-Esprit, quoi qu'il en coûte. Alors ensuite, autre question, « Dieu le Père a-t-il livré le Christ aux souffrances de la Passion ?» Donc, on a vu qu'il est mort par ses persécuteurs, qu'il a subi cette mort par obéissance. Maintenant, la place de Dieu le Père dans les souffrances de notre Seigneur. Alors, l'argument d'autorité qui montre que Dieu le Père a bien livré son Fils aux souffrances de la Passion, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Saint Paul aux Romains, chapitre 8, verset 32. Dieu le Père a livré le Christ aux souffrances de la Passion. Tout d'abord, donc, comme par un décret éternel, c'est-à-dire qu'il avait décidé que c'était le meilleur moyen pour sauver l'homme. D'abord, en tant que dans ces décrets éternels, elles étaient arrêtées comme un moyen de salut pour le genre humain. Donc d'abord par un décret éternel. Ensuite, par une inspiration divine qu'il a communiquée à son Fils, selon qu'il lui a inspiré par la charité et la volonté de souffrir pour nous. Et puis enfin, par une permission divine en permettant le mal. C'est-à-dire que le bon Dieu veut le bien, mais permet le mal. Donc il voulait l'amour de notre Seigneur, il voulait cet amour, et c'est pour ça que notre Seigneur donc a voulu à son tour subir cette passion, mais notre Seigneur ne veut pas le mal pour lui-même, et donc il a simplement permis que des persécuteurs mettent notre Seigneur à mort. Enfin, en l'abandonnant sans réserve à ses bourreaux. D'où cette parole de notre Seigneur, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» fait bien voir que notre Seigneur l'avait livré au pouvoir de ses persécuteurs. Alors ici, il y a quand même des objections qui sont posées. Cela paraît impossible, donc dit l'objection, que le bon Dieu livre ainsi son Fils. N'eût-ce pas été inique et cruel qu'un innocent fût livré à la passion et à la mort? Or, comme on le dit dans le Deutéronome, Dieu est fidèle et sans aucune iniquité. Dieu n'a donc pas livré le Christ innocent à la passion et à la mort. livrer notre Seigneur à la mort, c'est commettre quelque chose d'abominable. Donc on dit Dieu ne peut pas avoir livré son Fils à la mort. C'est ce que dit l'objection. Hein. Réponse. Il est impie et cruel de livrer un homme innocent à la passion et à la mort contre sa volonté. Ce n'est pas ainsi que Dieu le Père a livré le Christ, mais il lui a inspiré la volonté de souffrir pour nous, par où on constate tout d'abord la sévérité de Dieu, parce que pour qu'il n'a pas épargné son Fils, ça montre bien que le bon Dieu est juste, qui n'a pas voulu remettre le péché sans une peine, ce que souligne l'apôtre lorsqu'il dit « il n'a pas épargné son propre Fils ». Et aussi, il a manifesté par là la bonté de Dieu. Car alors que l'homme ne pouvait offrir une satisfaction suffisante au moyen d'une peine qu'il subissait lui-même, comme le péché était une injure commise à un Dieu infini, il fallait eh bien, que Dieu lui-même rachetât le péché. L'homme n'était pas capable de payer cette dette. Il n'en avait pas les moyens. Donc la bonté de Dieu, car alors que l'homme ne pouvait offrir une satisfaction suffisante au moyen d'une peine qu'il subissait lui-même, Dieu lui a donné quelqu'un qui satisferait pour lui, ce que signifie l'apôtre en disant « il l'a livré lui-même pour nous tous ». Et encore, le Christ, Dieu l'a établi, propitiation, par la foi en son sang. Autre objection, on n'est pas livré à la fois par soi-même et par un autre. Or le Christ s'est livré lui-même pour nous, car dit Isaïe, il a livré son âme à la mort. Dieu ne l'a donc pas, n'a pas, donc pas pu le livrer. Alors, en tant que Dieu, donc c'est la réponse, le Christ s'est livré lui-même à la mort, par le même vouloir et la même action que le Père en le livrant. Mais en tant qu'homme, le Christ s'est livré lui-même par un vouloir inspiré par son Père. Il n'y a donc aucune opposition dans le fait que le Père a livré le Christ et que le Christ s'est livré lui-même. Et alors, dernière objection qui mérite aussi d'être médité, qui nous aide toujours à mieux comprendre ce mystère de la Passion. Judas est incriminé d'avoir livré le Christ aux Juifs. Selon cette parole conservée en Saint Jean, « L'un de vous est un démon. » Jésus parlait de Judas qui devait le trahir. De même encore, les Juifs sont incriminés de l'avoir livré à Pilate, qui disait lui-même « Ta nation et tes pontifes t'ont livré à moi. » Pareillement, Pilate l'a livré pour être crucifié, comme on le lit dans Saint Jean. Or, Saint Paul l'écrit, il n'y a aucun rapport entre la justice et l'iniquité. Il semble donc que Dieu le Père n'a pas livré le Christ à la Passion. Dans la mesure où le Christ a été livré à sa Passion par ses persécuteurs, dit l'objection, il n'a pas dû être livré à sa Passion par Dieu lui-même, puisqu'il n'y a rien de commun entre Dieu, qui est le bien, et les persécuteurs qui voulaient le mal. Réponse à cette objection, la même action se juge diversement en bien et en mal suivant la racine dont elle procède. Et donc là, ça montre toujours, bien sûr, pour nous, l'importance de l'intention dans nos actions. C'est par amour, en effet, que le Père a livré le Christ et que le Christ s'est livré lui-même. C'était une action qui était bonne, dans la mesure où il était mû par l'amour. Et voilà pourquoi ils sont dignes de louange. Mais si Judas a livré le Christ, c'est par cupidité, les Juifs par envie, Pilate par respect humain à l'endroit de César. Telle est la raison pour laquelle on les incrimine. Donc, les motifs étaient bien sûr totalement différents. Il y a tout un sermon, très très beau sermon, de Bossuet qui s'est inspiré de cela pour un très beau sermon sur la Passion, en posant l'objection donc, et puis en répondant à cette objection sur la le fait que Dieu le Père lui-même n'a pas épargné son Fils pour nous. Alors ensuite, convenait-il que le Christ, plus que 5 minutes, rassurez-vous, hein, je vous libère dans 5 minutes, convenait-il que le Christ souffrit de la main des gentils? Argument d'autorité, il disait en parlant de lui-même et des Juifs, ils le livreront aux gentils pour qu'ils en fassent un objet de mépris, pour qu'ils le flagellent et le crucifient. Donc, l'argument d'autorité, eh bien, notre Seigneur lui-même avait annoncé que les Juifs le livreraient aux gentils. Donc, il convenait que notre Seigneur souffrit non seulement de la main des Juifs, mais également de la main des gentils. Et l'argument de convenance, sa passion figurait d'avance l'effet qu'elle devait produire. Or, elle a eu pour résultat le salut des Juifs, dont un grand nombre sur le baptême immédiatement après. Et des Juifs, le salut a passé aux gentils. Il convenait pour cette raison qu'il commença à souffrir de la part des Juifs et que livré par eux aux gentils, il acheva sa passion par les mains de ces derniers. Et puis ensuite, il y avait une autre raison, c'est que les Romains avaient enlevé aux Juifs le pouvoir de condamner à la peine de mort. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs ont voulu livrer notre Seigneur à la mort, parce qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes condamner à mort. Les Juifs ne pouvaient intenter qu'un procès religieux, et c'est ce qu'ils ont fait. Pilate, qui sans doute les prie de sentir... Pilate qui sans doute les prie de s'en tirer seul. Mais ils ne peuvent faire l'exécution sans sa permission. Donc Pilate désire que les Juifs accomplissent eux-mêmes leur besogne, parce qu'il sait que notre Seigneur est innocent. Mais ils ne peuvent faire l'exécution sans sa permission. Et lui, cela va de soi, comme dit Mommsen, doit s'assurer que Jésus est coupable. Alors, très adroitement, et cela était nécessaire, les Juifs transforment leur propre grief en une accusation qui obligera le procurateur à condamner. C'est sur quoi sont d'accord les quatre évangélistes, en disant que s'il ne le condamne pas à mort, il n'est pas un ami de César. Il a fait intervenir ce facteur politique qui a fait peur à Pilate, et c'est comme ça qu'il a fini par le livrer aux Juifs, de le livrer, pardon, aux gentils. Alors après, autre question, mais je vais simplement la nommer, puis je vous donnerai juste la réponse brève, qui concerne les persécuteurs. Est-ce qu'ils connaissaient le Christ, oui ou non? Est-ce que les Juifs qui ont mis à mort notre Seigneur savaient qu'il était Dieu, oui ou non? Alors ici, il y a une distinction qui est faite. Bon, tout d'abord, l'argument d'autorité montre qu'apparemment, ils ne le connaissaient pas. Saint Paul écrit, « S'ils eussent connu le Seigneur de la gloire, ils ne l'auraient point crucifié. » 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 8. « S'ils eussent connu le Seigneur de la gloire, ils ne l'auraient point crucifié. » Donc la distinction que fait saint Thomas, il fait d'abord une distinction entre les grands, les pharisiens, les scribes, qui, eux, avaient une connaissance plus profonde, et puis le menu peuple, qui lui suivait donc les grands. Alors il dit, « Les grands, eux, savaient qu'il était le Christ, puisque, comme il accomplissait toutes les prophéties, donc c'était évident qu'il était le Christ. Donc, il était inexcusable de ne pas le reconnaître comme étant le Christ, mais c'était la jalousie et l'envie donc, qui les faisait lutter contre lui. Mais par contre, il ne savait pas, dit-il, d'après eux, d'après ce que dit saint Thomas, donc il ne savait pas pour autant qu'il était vraiment Dieu. Et par contre, le menu peuple, lui, alors, apparemment, ne savait ni qu'il était le Christ, ni qu'il était le Fils de Dieu, parce que justement, il se laissait influencer par les scribes et les pharisiens. Quelques-uns, dans l'ensemble, pouvaient le croire, mais beaucoup n'y croyaient pas. Donc, c'est en gros la réponse. Les chefs des Juifs ont su avec certitude que Jésus était le Christ promis dans la loi, ce qu'ignorait le peuple. Mais ils n'ont pas connu avec certitude qu'il était le vrai Fils de Dieu. Cela, ils ne l'ont su que par conjecture. Toutefois, cette connaissance conjecturale était obscurcie en eux par l'envie et le désir de leur propre gloire qu'ils voyaient diminuer par l'excellence du Christ. Et puis enfin, dernière question, dernier article, je suis pas sûr. Le péché de ceux qui ont crucifié le Christ a-t-il été très grand ? Alors ici, bon, ils mesurent donc la gravité du péché en fonction des personnes. Donc il y a des degrés dans ceux qui étaient de culpabilité dans la mort de notre Seigneur. Le péché des princes des Juifs, dont l'ignorance affectée n'avait aucune excuse, fut très grand. Parce que dans l'ignorance, il y a des ignorances qui ne sont pas coupables, ignorance coupable. Là, l'ignorance des Juifs était une ignorance coupable. Par conséquent, le péché fut très grand. Et par sa nature même, et par la malice de leur volonté. Celui des autres Juifs était très grave aussi dans son genre, mais il était amoindri par leur ignorance. Parce que vous dites, eux connaissaient moins, se rendaient moins compte que notre Seigneur était vraiment le Christ, donc le Messie attendu, et encore moins qu'il était Dieu. Ils ne savaient pas. Et puis enfin, le péché des gentils qui ne connaissaient pas la loi fut moins grave que celui des Juifs. Et après, il précise dans les réponses aux objections en disant « Pilate condamnant Jésus par la crainte de César et les soldats qui le crucifièrent pour obéir à leur chef furent moins coupables que Judas, conduit par la cupidité, et que les princes des prêtres mus par l'envie et par la haine. » Alors, pour aider à mieux comprendre cette parole de la croix, mon père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint Thomas pose une objection, donc il y répond. Le péché de ceux qui ont crucifié le Christ a-t-il été le plus grave des péchés? La réponse semble négative, car comment le péché le plus grave aurait-il une excuse? Or, le Christ lui-même a excusé le péché de ceux qui le crucifiaient. Mon Père, pardonnez-leur, disait-il, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ils ne savent pas ce qu'ils font, donc c'est qu'apparemment, ils ignoraient. Et la réponse qu'il donne, l'excuse du Seigneur ne vise pas les chefs des Juifs, mais le peuple, comme on l'a montré dans l'article. Donc l'excuse concernait non pas les chefs, mais le menu peuple, qui lui s'était laissé fourvoyer eh bien, par l'autorité en place. Donc voilà, ce mystère de la Passion traité par saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique. Alors encore une fois, c'est un petit peu ardu, c'est très... c'est thomiste, quoi. C'est très bien charpenté, mais ça exige donc une bonne attention. Donc après une longue journée de travail pour certains, c'est peut-être pas évident de suivre pendant 1h15 un exposé comme celui-là. Mais malgré tout, retenez au moins de tout cela que le bon Dieu fait tout avec ordre, sagesse, mesure, et que ce mystère de la Passion est un mystère qui reste un mystère pour nous, bien sûr, mais malgré tout, tous ces arguments de convenance nous montrent eh bien, l'amour de Dieu pour nous, mais également sa justice, ce qui doit nous aider toujours à quitter le péché, et puis à embrasser la vertu à sa suite, et à porter notre croix avec générosité à la suite du divin maître. Donc j'espère que cela pourra vous y aider. Voilà. On va tout de suite terminer par une prière.